délire doux, mon cerveau à l'année basalé. Je perds pas de vue ceux qui veulent m'étendre. Prêt à zapper, c'est mieux que se rendre. Il fallait pas nous chercher, fallait pas croire qu'on allait rester là, les bras croisés. À boire un thé quand la haine dure comme l'amitié tenace, elle persiste. Invite les ex noirs sur la piste. Les lettres sautent, pieds noirs et italiens. Poursuivent la liste, le kyste et les tempires. Et si on dit pas nous, qui va le dire? Et si on l'écrit pas, qui va le lire? Qui va s'en souvenir? Le pire, c'est qu'on n'est pas sûr que ça serve. Trahir, filer la gerbe, fuir n'existe pas. Trop de gens courtisent, GGN sème la gangrène sur Mars. Pendant 10 ans, j'ai porté ce nom avec fierté. Maintenant, j'hésite à le prononcer. Jamais l'idée ne m'a effleuré, fané. La rose du sud s'éteint, même Notre-Dame pleure. Sous la chaleur, les cœurs flétrissent. Toujours le front en sueur, la peur de l'autre donne des ailes. On se sent moins seul au pluriel, la tête pleine de rien. Les cons remplissent des bulletins criminels. Les oubliés plient, l'état jouit. Les jeunes jouent les bandits, les parents triment, s'usent la vie. Avec un job de jour, un job de nuit, un mec sur trois me vise, ça fout les glandes. Pense qu'il y en a plus d'une centaine auxquels je fais la bise. Ils cachent un couteau dans leur manche, le soupçon plane désormais. À tout moment, sur ce fait, quelqu'un peut me saluer. Du genre, salut poteau, ciao enfoiré, même caché. Les bofs m'auront pas, la fierté du hip-hop sera pas la honte du pays. Je le dis en vrai, mais je croise les doigts, les mains aussi, je prie pour la première fois que la cat est aujourd'hui.
And I'm in heaven, ba-ba-ba. And they're all outside having fun. We watch our TV shows. Baby, ba-ba-ba. I thought I'd give the world a chance. Ba-ba-ba. Went out and watched the guys dance. I missed our favorite show. Baby,
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonne heure, Francis Gavel au micro. Et pour cette ultime émission de notre 26e saison, on a tout changé, on a tout modifié. En fait, le générique d'ouverture n'est pas une de mes propositions musicales, mais une proposition de Thomas Fouet. Et donc je me tourne immédiatement vers Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour Francis.
Et qu'avons-nous donc écouté ?
Eh bien, je vais vous le dire dans un instant. Bonjour à toutes et à tous dans un premier temps, car je suis un garçon poli, et je tiens à saluer mes auditeurs, mes auditrices, nombreux, innombrables même. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité cinéma, assorti d'une évocation, je le dis dès à présent, d'une évocation de quelques-uns des plus beaux courts-métrages présentés cette année au Festival d'Annecy et sélectionnés par l'ami Francis Gavel, ici présent, qui s'y trouvait. Si vous nous écoutez depuis le futur, nous sommes donc le samedi 22 juin 2024. Arsenal a perdu la première ligue. Amiens n'est pas monté en Ligue 1, ni Sochaux en Ligue 2. L'an prochain, tout sera donc à refaire, c'est-à-dire à perdre encore. Mais la défaite, le saviez-vous, a ses leçons et ses adeptes dont je suis. Voilà pour l'essentiel de l'actualité dans laquelle j'ai quelques compétences. Et venons-en désormais, voulez-vous bien, à l'activité mécanique appelée cinématographe, à ce qu'il en reste du moins sur les écrans et dans nos cœurs. Non sans vous avoir dit qu'à l'instant, et je réponds à ta question, Francis. Et en ouverture de cette émission, nous écoutions « I know it's like this, baby » de Bill Ryder-Jones. C'est extrait de son nouvel album « Les Shidda » paru voici quelques mois. Et certains parmi vous auront peut-être reconnu le morceau samplé dans ce morceau « Baby » de Gal Costa, une chanson de Caetano Veloso, pardon, qui d'ailleurs ici l'accompagne. En 1968, toujours, quelques mois après sa création, une autre interprète la reprendra, cette chanson, une certaine Maria Bethania. Nous en dirons, Francis, je crois, quelques mots tout à l'heure. Mais en attendant, pour évoquer quelques-uns des films du moment, d'ores et déjà en salle ou à sortir très bientôt, nous sommes comme toujours en excellente compagnie. Je souhaite donc la bienvenue à Simon O'Haro de la rédaction des Fiches du Cinéma. Bonjour Simon.
Bonjour Thomas.
Et à Alexis Huneau, notre camarade de Bulle de Rêve qui fait des infidélités à son programme. Bonjour Alexis.
Bonjour Thomas.
Et ravi de t'accueillir à cette table. Francis, bien évidemment, et comme à ton habitude, tu te joins à nous pour évoquer ce programme. Je vous propose donc d'ouvrir le bal avec Love Lies Bleeding, d'ores et déjà en salle. Il s'agit du deuxième long-métrage de la britannique Rose Glass, remarqué en 2021 pour Saint Maud, qui en France avait été diffusé sur Canal+, mais qui n'était jamais sorti en salle en raison des fermetures successives liées à la pandémie de Covid-19. De quoi est-il question ? Nous sommes aux États-Unis dans les années 80, si je ne m'abuse. Lou, gérante d'un club de gym que possède son père, figure de la pègre locale, tombe éperdument amoureuse de Jackie, culturiste en route pour Las Vegas, où elle s'apprête à disputer un concours. Un jour, Beth, la sœur de Lou, est violemment battue et envoyée à l'hôpital par son compagnon. Voyant Lou au désespoir, Jackie décide d'agir, un geste lourd de conséquences, comme on pouvait s'y attendre. Michael Ganem écrit dans les fiches du cinéma du film noir confortable attendu. Rose Glass livre une version plus poisseuse, moins arrangeante, mais aussi parfois grinçante, qui met en scène une protagoniste plus discutable qu'il n'y paraît. Fin de la citation. Au-delà de sa dimension de film noir, une mauvaise décision en entraîne nécessairement par un effet d'engrenage quantité d'autres. Outre le discours assez frontal que porte le film sur le patriarcat, la violence des hommes, la célébration des amours queer, Love Lies Bleeding est aussi, à mon sens, tout du moins un travail sur la monstruosité d'excroissance musculaire en régurgitation des corps, et je ne vous parle même pas du dénouement, et une œuvre en effet plus malaisante, c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse, que ce que jusqu'alors j'en avais entendu dire. J'ai d'ailleurs beaucoup pensé à The Substance, le film de Coralie Farja, présenté cette année à Cannes en compétition officielle. Le film n'est pas encore daté, mais je pense que nous y reviendrons sur ces ondes en temps et en heure, et vous me direz alors si je me suis fait des idées. Au casting, Kristen Stewart, Cathy O'Brien, que l'on retrouvera très prochainement à l'affiche de Twisters, le blockbuster de l'été que j'attends avec impatience, Jenna Malone, le grand Ed Harris, et dans un second rôle, et pour cause, Dave Franco. Love Lies Bleeding de Rose Glass, je vous le disais, c'est d'ores et déjà en salle. Qui veut ouvrir les hostilités ?
Bon ben,
trêve de politesse.
Oui, t'inquiète. Bon ben, je veux bien. Je sens que je vais pas aller dans le sens de Thomas. En fait, je m'étais dit que j'étais prêt à voir n'importe quel
film.
Alors,
je dis que le film m'intéresse. Je dis pas par ailleurs que ça me passionne, que je nourris un amour disproportionné
là,
pour le film.
C'est moi, quoi. En fait, je m'étais dit que j'étais capable de voir n'importe quel film avec Kristen Stewart, et donc je crois que j'ai vu, effectivement, ça y est, enfin,
n'importe quel film avec Kristen Stewart.
J'avoue, alors là, ça n'engage que moi, parce qu'en fait, d'emblée, je le dis, le film m'est apparu plutôt déplaisant. déversant, alors à mon sens, avec un certain sens de la surenchère visuelle, gerbe, hémoglobine, visage atrocement figuré. Alors, je veux bien que le contexte narratif soit un contexte redneck, de pro-NRA, donc favorable à alors, la possession des armes.
Je pourrais en parler hors antenne avec Christiane Passevant, notre amie que j'ai croisée il y a deux jours et qui m'a dit, mais pas du tout, ce n'est pas un film sur les rednecks. Alors, elle t'expliquera en quoi et par quelle circonvolution langagière.
D'accord, je connais moins bien l'Amérique profonde qu'elle, je l'avoue. Donc, elle en parlera sans doute mieux que moi. Mais tout ça pour dire que, justement, cet environnement, je me demande si ça justifie une redondance, à mon sens, violente à l'image. Voilà. Après, bah, je trouve qu'il y a une option fantastique. Et je la sens un peu... Alors, je la révèle pas. Je suis sympa, si vous allez voir le film. Je ne la révèle pas. Mais je trouve que c'est un peu une espèce de béquille narrative, un Deus Ex Machina, dans un ultime conflit... père-fille, dont l'issue semble plutôt logiquement à l'avantage du père. Voilà. Donc, bon, mais à la limite, tout ça, je peux m'en accommoder. Par contre, bah, je m'accommode un peu moins de ce que je vais dire maintenant, c'est que c'est un récit, et ça, je trouve ça très bien, de libération de la femme. Et je trouve que le film passe son temps à maltraiter ses personnages féminins secondaires. Et j'avoue que ça, ça me gêne un peu. Je veux dire, de la sœur de l'héroïne, qui est une épouse battue, à l'ex-petite amie, qui est achevée après une première exécution violente.
Oh, le spoiler.
Ouais, mais c'est pas...
le spoiler...
Il y a des choses que je dis quand même.
Presque post-générique.
Pour en arriver à dire qu'en fait, j'ai l'impression que dans le film, tous
elle
les
ne reviendra pas dans le prochain épisode. Ça, c'est
ça.
C'est clair.
Dans Love Lies Bleeding.
Qui sait.
The Retour. Hein, je trouve que voilà, tous les effets de sidération sont un peu bons à prendre dans une société du spectacle cinématographique.
Même Kristen Stewart prend cher, d'ailleurs. Elle...
Oui, tout à fait. Non, mais tout le monde prend cher. Hein. Mais les deux personnages secondaires féminins, pour moi, c'est un peu... C'est pas possible, parce que je trouve qu'on passe en mettant tout au même niveau de l'abjection des violences conjugales à l'effet comique sur la petite emmerdeuse ressuscitée. Voilà, donc Love Lies Bleeding, ouais.
Ok, eh bien, merci pour cette conclusion, Idoane. Alexis, peut-être.
Oui, non, il y a des choses.
Tu hochais la tête sur la question morale, notamment.
Sur la question morale et sur les mécanismes de la violence.
Possible.
Oui, exactement. Je comprends ce que Francis veut dire. Après, j'y reviendrai un peu plus tard. C'est vrai que le film tranche, à première vue, tranche énormément avec son premier essai, qui était un peu plus rigoriste dans l'approche, un peu plus austère. Et c'est vrai qu'ici. On a une sorte de, on retrouve cette capsule temporelle des années 80s, assez grossier, assez outrancier. Et je pense que le film est très intéressant parce que derrière cette enveloppe très outrancière, il y a beaucoup de choses à en tirer, notamment justement sur l'étude de la violence. Mais je suis d'accord avec Francis, c'est que parfois le film fait preuve de maladresse parce que on met sous une même échelle une sorte de violence ritualisée systémique, par exemple la violence conjugale, et à côté on questionne aussi la violence qui intervient de manière très brutale à travers le personnage de Katie O'Brien notamment. Et c'est vrai que faire dialoguer ces deux types de violence parfois donne un effet d'étrange, mais je trouve involontaire, comme si le sujet dépassait un peu le rose glace. Mais je trouve qu'elle se rattrape par... moi, je trouve que les interprétations sont assez justes. Je trouve les personnages féminins assez intéressants, notamment le duo principal. Effectivement, c'est un film sur la libération de la femme, la libération de leur corps. Mais il y a aussi... Je pense que ça doit passer aussi par une forme de violence. Ça doit passer aussi par une sorte de révolte un peu alors ici qui est traduit par
une sorte d'étrange politique que tu énonces ici
presque
oui oui ça passe oui, par sûr. la violence
il faut que ça oui là il faut que ça saigne en fait oui il faut que ça saigne. Alors bien sûr c'est bien fait, c'est moins bien fait, on peut en débattre et je comprends tes réserves, Francis. Néanmoins, je trouve qu'il y a quand même un petit pouvoir d'attraction qui en orbite autour du film et je suis un peu partagé. Je trouve que la matière est très intéressante, la forme est un peu moins incertaine. Un peu plus incertaine plutôt, et mais je trouve que c'est plutôt, je trouve que c'est une satire sur le sur les rednecks. Je sais pas si c'est vraiment
alors,
un film sur
toi,
les
c'est pareil, tu vas en discuter avec Christiane Passevant. Ça on va faire un tir groupé,
mais intéressant, imparfait, mais j'ai trouvé la proposition assez intéressante.
Alexis, je me tourne vers toi.
Alors, je t'avoue que moi, quand vous m'avez proposé le film, j'étais surpris parce que c'est un film que j'aurais pas vu forcément. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et hier soir, je vais vous dire ma vie. Hier soir, à minuit et demi, alors que j'étais prêt à facilement arriver ici et dire tout le monde n'est pas Catherine Bigelow ou les frères Cohen, parce que je trouve qu'elle passe à côté de pas mal de choses, je me suis dit peut-être qu'elle a fait d'autres films avant, j'avoue que je ne connaissais pas. Et j'ai vu à minuit et demi Saint-Maud et pris d'un mysticisme, j'avoue que j'ai adoré ce film. Je trouve ce film absolument incroyable sur la solitude, sur croire en une passion, en un dieu. Je trouve que le film a quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui fait que j'avais vu Love Lies Bleeding et je crois que j'ai encore moins aimé. Ah. Maintenant, après d'accord. avoir vu Saint-Maud, que je trouve justement très réussi, je trouve que Love Lies. C'est... Non, mais c'est.
Bon, des fois, on est comme ça, on tente des trucs de programmation, c'est un peu des coups de poker, quoi. Moi, non. Je jette le film au milieu de l'arène et puis.
Mais je suis très content d'avoir vu ça parce que ça m'a permis de voir Saint-Maud.
Oui.
Donc, ça, c'est super. Non, je trouve que le film, en effet, tout ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'il y a. Notamment beaucoup de scènes d'amour et de scènes de sexe qui sont assez fortes parce qu'en effet, d'un seul coup, filmé par une femme, entre deux femmes. Donc là, on sent une libération, on sent quelque chose, une envie qui n'a pas forcément été fait avant et qui était souvent, en effet, sur un regard d'homme. Donc il y a quelque chose d'assez fort là-dedans. Après, le reste, moi, c'est un peu l'inverse. Moi, je pense que ça ne va pas assez loin. C'est-à-dire que d'hémoglobine, il y en a finalement assez peu. Je trouve que justement, on est alors j'aime bien ce genre de film, mais justement, on n'est pas dans le côté nerveux d'une Catherine Bigelow, par exemple, on n'est pas dans Blue Steel, avec cette espèce de, je sais pas, de fascination pour l'arme, de fascination pour quelque chose, de cette fascination qu'elle pourrait avoir pour, que moi je n'ai pas, mais que je peux comprendre pour ses muscles. On le voit très peu, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une idée, on la montre un peu, et puis on passe vite à autre chose. Ouais. Et pour moi, il y avait un côté un peu plus presque cartoon qui se retrouve à la fin. Peut-être que l'apparition de Les Voyages de Gulliver, à un moment donné, à la télé des frères Fleischer, nous amène. Oui, il fallait bien que je parle d'animation. nous amène là-dedans. Moi, je trouve que c'est. Voilà, je trouve qu'il y a juste, en effet. Alors, je suis assez d'accord, Christiane. c'est. Pour moi, mais c'est pas la volonté du film, elle loupe ce côté justement Renac, il y a ce moment qui est terrifiant de la gun party plus ou moins, j'en dis pas trop, mais ils sont là et qui est absolument terrifiant où on voit qui me rappelait un film sur un court métrage sur la fête à la crevette aux États-Unis, Arcadia, qui est un truc complètement qui donc ça s'appelle pas comme ça, c'est Arcadia, où on voit tous ces gens habillés en crevette, habillés qui fait très peur par rapport à ça. Et là, il y a quelque chose et je trouve pour moi c'est complètement loupé, ça passe à côté en fait de trucs. Ah, après, oui, les actrices sont parfaites. Ed Harris est absolument incroyable, évidemment, dans son personnage. Mais j'ai presque l'impression d'un véhicule.
Avec ses petits ajouts capillaires.
Il est parfait. Mais j'ai l'impression d'un véhicule pour acteurs et actrices, et notamment actrices, évidemment, que réellement un film qui veut nous montrer quelque chose.
Bah écoutez, il y avait un petit moment où ça me prenait un petit peu, ce moment où la protagoniste principale s'effondrait au sol en disant en quelque sorte, mais quel malheur c'est, quelle malédiction c'est d'être amoureuse. Enfin bon, la santé débordait. Je trouvais qu'il se passait quelque chose de très beau à la faveur de certaines séquences, notamment celle-ci, c'est-à-dire vraiment le malheur d'être amoureuse, d'être dépassée, débordée par sa propre passion. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez joli qui se passait à ce moment-là.
T'as quand même raison. Moi j'ai mis What is Love, c'est-à-dire que c'est vraiment un film sur qu'est-ce que l'amour, hein. On pourrait chanter ça. J'avoue. Sans trop en dire, l'air d'opéra. À la fin, à un moment donné, tu fais juste ou t'en fais trop, ou t'en fais beaucoup. C'est-à-dire que où il y a un côté, voilà, tu débordes de trucs, c'est pareil pour l'hémoglobine, etc., ou t'en fais des. Ou t'essayes d'en faire parce que ce moment, il pourrait être beau. Elle retrouve ce moment, il peut être. Enfin, moi, je trouvais déchirant. Ouais, oui. Encore une fois, on s'aime, on se déteste, et tout le film, mais.
Bon. Eh bien, écoutez, messieurs, Chouban, donc, mais c'est aussi l'intérêt d'évoquer des films qui, d'une part, prennent toute leur place dans un programme et, d'autre part, ne peuvent et ne doivent pas plaire à tout le monde. Je vous propose d'enchaîner avec In Water, le nouveau film de Hong Sang-soo, mais peut-être allons-nous, avant cela, entendre un petit intermède musical qui va nous conduire tout naturellement vers les rives de ce nouveau film. Thank you. Tous les films de Hong Sang-soo sont attendus de pied ferme par ses aficionados. Tu nous diras dans quelques instants, Francis, quand je te donnerai la parole, ce que nous étions en train d'écouter. Mais celui-ci était précédé d'une réputation un peu particulière, puisqu'il était annoncé comme le film flou de Hong Sang-soo. En effet, à quelques plans près, le cinéaste nous prive d'une vision claire de ce qu'il met en scène. Encore faudrait-il préciser toutefois ce qu'on entend par ces mots-là. Qu'est-ce qu'une vision claire en définitive? Mais enfin, en effet, et en un mot commençant, le film est flou. Un geste pour le moins étonnant, d'une manière générale, et peut-être à plus forte raison de la part d'un auteur qui nous avait habitué à travailler sur la netteté de l'image numérique. L'argument en quelques mots, nous sommes sur l'île de Jeju, dans une station balnéaire où un jeune comédien est venu le temps de quelques jours chercher l'inspiration et tourner son premier court-métrage, accompagné pour cela de son chef opérateur et de son actrice principale. C'est avec Shin Seo-ko, Ha Seung-guk, Seung Yoon Kim et la voix de Kim In-hee, le temps d'une scène. À mi-chemin entre le voile et le trouble oculaire, l'effet ne manque pas de déstabiliser avant de bouleverser à la toute fin, c'est ce que tu écris, Simon, dans le prochain numéro des Fiches du cinéma. Tu parles de troubles oculaires. J'ai croisé avant-hier, je le disais tout à l'heure, en projection de presse, notre camarade Christiane Pazan, qui m'a raconté qu'à la projection de presse où elle avait découvert le film, deux critiques étaient partis en cours de séance, croyant de toute évidence à une avarie technique. Je me permets une toute dernière observation. Avez-vous remarqué dans le film l'un des effets collatéraux de ce flou, à savoir que Hong Sang-soo n'y recourait pas au zoom, procédé dont il est pourtant coutumier, voilà. Vous en faites ce que vous voulez. C'était une petite observation personnelle, je me la permets parce que c'est quand même mal animateur. Qu'en avez-vous pensé, chers amis? J'ai envie de me tourner, soit... Ah bah pourquoi pas Alexis?
Je peux peut-être commencer comme ça, allez, je commencerai Alexis. Pas. Et puis comme je suis pas, je suis vraiment pas un connaisseur d'Hong Sang-soo, et donc je préfère passer avant Francis, avant de dire n'importe quoi. J'ai dû voir 2-3 films seulement, hein, cette, j'avoue que j'étais assez... Enfin, il a une force de nous parler d'une réalité ennuyante, un peu à l'inverse justement de la... Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas forcément, et à la fois, c'est fabuleux de filmer la réalité, la vie telle qu'elle se passe, avec des moments d'ennui peut-être, mais comme on a tous et toutes dans la vie. Et en fait, le film, à la fois, m'agace des fois. Je me dis, bon, bah, ça va, il vous prenez des... Et à la fois, je le trouve extraordinaire, parce que c'est un peu ce que disait Cazavette, on n'a pas besoin d'aimer mes personnages, on n'a pas besoin de les aimer, au contraire. Et ce film m'a pris, c'est quand même un film donc, qui dure environ une heure.
C'est ça,
j'ai,
oui.
J'ai calculé, il y a 39 plans, dont une quinzaine qui font moins de 10 secondes. Donc ça veut dire que vous pouvez imaginer qu'il y a des plans qui font 7 minutes, voire plus. Et je trouve qu'il y a quelque chose, moi, qui me fascine, ce rapport avec les trois personnages, où, en fait, peut-être que c'est le mystère aussi. C'est les non-dits qui me paraissent intéressants, qui a peut-être un peu moins, justement, dans le film d'avant ou dans un cinéma hollywoodien qu'on connaît.
Certes.
Hein?
Le Blind Bleeding est un peu moins...
Sans vouloir.
Alors, relève un peu moins du cinéma du non-dit.
Je parlais là même du cinéma hollywoodien. Non, mais ça fait du bien de voir un film, moi, qui ne connais pas bien. J'aime beaucoup cette idée. Alors, on verra, c'est intéressant que ça parle de tourisme, parce qu'il y a un film d'animation dont on parlera un peu plus tard qui parle aussi des méfaits, entre guillemets,
stations balnéaires.
Du tourisme et de stations balnéaires. C'est ces moments d'attente, de doute. J'aime beaucoup ce moment où il dit « je veux savoir si j'ai de la créativité ». Il y a plein de belles phrases, cette femme, sans trop en dire, je nettoie juste mon quartier. Enfin, il y a quelque chose d'une banalité, donc d'une force qui a. C'est quelque chose dans cette idée d'un film sur faire confiance. C'est quelque chose. Ouais, c'est un film qui m'a beaucoup touché alors que je m'y attendais pas. Et juste par rapport au flou, c'était intéressant parce que je me demandais qui. Mais en effet, nous sommes trois à voir des lunettes. Et moi, en fait, pendant le film, j'ai enlevé mes lunettes parce que je me disais qu'en fait, avec mes lunettes, voir flou, ça m'agaçait alors que je vois flou sans mes lunettes. Et donc, en fait, j'ai vu du flou. Et en fait, c'est aussi les mots, c'est raconter finalement une histoire avec les mots, avec la parole, et j'ai trouvé ça un geste assez magnifique.
Francis.
Oui, alors, je vais répondre à ta sollicitation
oui,
par rapport à la musique.
Qu'entendions-nous ?
Alors, ce qu'on entend, c'est une chanson qui est dans le film, voilà, et qu'on entend, alors c'est une chanson... Quand on préparait l'émission avec Erwan Charton, notre réalisateur, Erwan précisait, m'avait bien dit, attention, la chanson, elle est en mono, et on la laisse en mono, puisque c'est l'esprit du film. Et effectivement, elle est livrée comme ça, le son n'est pas complètement propre, aujourd'hui on équaliserait tout, ce serait merveilleux. Ben non, l'image est floue et le son n'est pas propre. Putain, quel film. Non, alors, une fois cette chose-là dite, moi c'est un film que j'attendais, mais alors... incroyablement. D'ailleurs, j'avais pensé que le précédent film qui sortait, donc Sang-soo, c'était le film flou.
Tu étais allé le voir et malheureusement, il était net.
Il était net.
Donc, tu es sorti de la salle.
Ben non, je suis resté parce que c'est
un problème technique. Oui.
Et je me suis dit, ah non, c'est pas encore celui-là, c'est celui d'après. Et donc, ce In Water...
Parce qu'il avait été présenté, il faut le rappeler, à Berlin en 2023. Donc, ça faisait 15 mois qu'on attendait la sortie de celui-ci. Ouais.
Voilà. Et donc, In Water, pour moi, enfin... en un mot très simple par rapport à cette idée du flou. Pour moi, c'est le film d'un peintre impressionniste à l'époque de la palette de couleurs digitale. Et je trouve que le film est complètement ça, du début à la fin, et que effectivement le fait d'aller, de quitter la ville, de quitter Séoul et d'aller à Jeju, c'est comme ça de se dire bah oui, je deviens ce peintre impressionniste, je vais au bord de la mer et je vais peindre la mer. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être plus de paysages que d'habitude, peut-être comme il y en avait dans Hotel by the River, l'importance retrouvée du paysage, du grand paysage. En même temps, bah, effectivement, ce flou, c'est aussi l'expression du personnage. Ce jeune réalisateur, c'est son premier court-métrage, qui ne sait pas ce qu'il va faire comme film, qui n'en a aucune idée, et qui donc est dans le flou, n'est-il pas? Et puis, enfin, moi, ce que j'ai envie de dire aussi...
Qui est même dans le flou, dans ce qu'il motive à faire du cinéma, dans ce qu'il pousse à faire du cinéma. C'est-à-dire qu'il n'a pas de projet de cinéma, il ne sait pas exactement pourquoi il veut tant faire du cinéma.
Et que quand même, quelque part, c'est rassurant de savoir qu'il y a des réalisateurs qui n'ont pas de projet de cinéma. Moi, j'adore. Et la dernière chose, en même temps...
Tu peux aller... Je vais pas citer de nom de multiplex. Tu peux aller dans un multiplex chaque mercredi matin pour faire le tour des... Tu peux le constater assez aisément que la plupart des cinéastes n'ont pas de projet de cinéma.
Voilà, je savais que tu rebondirais d'une manière ou d'une autre. Et puis, Alexis l'a un petit peu mis en question, c'est qu'effectivement, dans ce film, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui est magnifique, qu'on n'attend pas, dans un premier temps. Et en même temps, cette rencontre, ça porte le film ailleurs. Et pour moi, c'est presque un endroit de geste un petit peu politique. Bah, un geste politique ramené au cinéma d'Aung San Suu, hein, c'est-à-dire qu'il a l'air de rien. Parce que bah, finalement... Et sans en dévoiler autant que j'en ai dévoilé dans Love Lies Bleeding.
Parce que tu voulais du mal à ce film.
Alors que là, je ne veux que du bien. Eh bien, c'est de se dire que, voilà, on est face d'un seul coup, il rencontre une femme qui est l'incarnation du geste écologique de base, qui pourrait être le geste que tout le monde est capable de faire et ne fait pas forcément. Et Aung San Suu, d'une certaine manière, le met à l'écran, le dit. Voilà. Il y a un geste qu'on peut tous faire, qui n'est pas très compliqué et qui ne demande même pas de faire du tri sélectif ou quoi que ce soit. Et je trouve ça très beau. Et je trouve ça très beau parce que ça, évidemment, ça impressionne au sens de impressionner la pellicule. Ça impressionne le personnage principal qui se dit bah, en fait, mon héroïne, elle est là.
Et puis ça entre en résonance avec juste... le cinéma de Aung San Suu, dont le bilan carbone est quand même relativement modeste, il faut le dire.
Et pardon, si je peux mettre, ce qui est beau aussi, c'est que, sans trop dire aussi, son geste est désintéressé. Et ça, c'est très beau parce que finalement, elle le dit bien, j'attends pas les applaudissements, qui évidemment, notre héros, lui, les attend justement par rapport à ça. Donc il y a une rencontre où d'un seul coup, on se remet en question par rapport à qui on est et cette fameuse idée de création à tout prix.
Et la dernière petite chose avant d'évidemment laisser la parole à Simon, moi ce film je peux pas m'empêcher de le rapprocher d'un cinéaste dont on parle régulièrement aussi dans cette émission, qui est Jonas Trueba, un réalisateur espagnol, et qui avait dit dans une interview au moment où il présentait son film Venez voir, le film précédent, que de toute façon il fallait oser les films dont l'industrie ne veut pas, et je trouve que là bah, on est face à ça.
Et donc, Jonas Trueba, septembre sans attendre, pardon, parce que le titre a pas mal bougé depuis sa projection cannoise. Enfin, il a été présenté sous son titre original, Septembre sans attendre, le nouveau film de Jonas Trueba, est une petite merveille. Peut-être tardivement, en septembre, en parlerons-nous. C'est un très très beau film qui était, à mon avis, relativement sous-estimé à sa présentation cannoise. Je me tourne vers Simon. Je sais déjà que tu as aimé le film.
Oui, et puis mes camarades ont tout dit. C'est vrai que Alexis disait on n'a pas besoin d'aimer les personnages. Et ici, on n'a presque pas besoin de les voir. Je vais pas revenir sur la question du flou artistique, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que je trouve de réellement bouleversant, parce que quand il la colle au fragment du quotidien, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une résonance presque universelle. Alors bon, ça paraît bateau de dire ça, mais je trouve que c'est un film qui est très universel, comme beaucoup de ces films d'ailleurs. Mais justement sur la rencontre, sur l'incertitude. Et je reviens aussi sur le très beau monologue du jeune réalisateur qui dit « Moi, ce que je veux, c'est la reconnaissance. Mais avant cela, je veux voir aussi où est-ce que est-ce que j'ai de la créativité ? Et surtout, si j'en ai, où est-ce qu'elle va me mener ?» Et alors, quand on... Voilà, je vais pas en dévoiler, mais quand on progresse à mesure... Enfin, progressivement, il y a quelque chose de vraiment tragique, je trouve, dans son parcours. Et en même temps, qui est tranché par une sorte de, comme ça, de lumière presque aveuglante. Moi, je trouve, voilà, cette interrogation de ce chemin de vie, de voilà, quelle est notre place, et cette rencontre qui le ramène un peu plus sur terre, un peu plus sur, dans, sur le chemin d'humilité. Moi, je trouve que c'est très beau, mais avec toujours cette économie du moyen, avec si peu de dialogue, avec très peu de plans. Et je trouve que c'est très fort de raconter tant de choses avec si peu. Et c'est tellement rare de voir ça au cinéma. Et même si, voilà, il sort des films... enfin, à raison de presque deux films par an.
Sur un rythme de deux films par an, à peu près.
Ouais. Mais ça reste quand même extrêmement rare au vu de la production cinématographique annuelle. Donc, le geste, voilà. C'est un geste qui est presque familier maintenant, voilà, on s'y attend. Mais c'est toujours émouvant d'en avoir un ou deux par an, quoi.
Et juste, une dernière chose, il y a, ça peut paraître long parce qu'on a beaucoup parlé, mais la mise en scène est incroyable. Et je trouve que la géométrie de trois personnages dans le plan, la manière dont ils la jouent, avec évidemment souvent le réalisateur un peu seul, avec les deux qui se rapprochent, etc. Et superbe. Moi, alors, il y a un film qui m'a toujours marqué pour ça, et c'est Une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Ça peut paraître étonnant qu'on compare un film en scope et un film flou.
En termes de moyens et de logistique déployés, effectivement, c'est un peu le grand écart.
C'est un peu le grand écart. Et à la fois, je trouve que ces trois personnages sont absolument magnifiques, des moments où ils bougent. Et voilà, il y a quelque chose de vraiment beau dans la mise en scène.
Oui, mais les grands cinéastes dialoguent. Par-delà leurs économies respectives.
Il y a un très beau plan justement qui intervient avant la rencontre sur la plage où lui reste immobile et regarde l'horizon et les deux personnages, donc l'actrice et le chef opérateur qui s'amusent à reproduire des mouvements de taekwondo je crois.
Oui, c'est ça.
Et ça dure au moins 2 ou 3 minutes en plan fixe.
C'est 4 minutes et quelques ce plan-là.
Et c'est un plan qui pour moi dit presque tout en fait, tout sur le film, tout sur les personnages. Et voilà, encore une fois, 4 minutes pour dire autant de choses, c'est fort.
Eh bien, In Water de Hong Sang-soo, c'est donc à découvrir en salle à compter du 26 juin. Et je vais vous proposer à présent eh bien, une petite pause musicale, puisqu'on on prend son temps ce matin. Et puis voilà, une petite pause musicale à l'issue de laquelle on se retrouve pour poursuivre et même conclure d'une certaine façon cette première partie de notre programme. On se retrouve donc dans quelques instants.
Thank you.
retour sur Radio Libertaire. Vous écoutez longtemps, je me suis couché de bonne heure. Thomas Faux au micro en compagnie de Francis Gavel et de la rédaction des Fiches du Cinéma. En la personne de Simon O'Haraud et de Alexis Huneau, notre camarade de Bulle de Rêve. Pour cette table ronde consacrée à l'actualité des sorties en salle, à l'instant, nous écoutions Like I Say I Run Away de Niloufer Yanya, dont le nouvel album est attendu. Par mois, en tout cas, pour septembre. Et nous en revenons à l'actualité des sorties en salle avec Pendant ce temps sur Terre. En 2019, Jérémy Clapin avait signé son premier long-métrage d'animation J'ai perdu mon corps, présenté à la Semaine de la Critique, comme l'avait été, si je ne m'abuse, 11 ans plus tôt, son court-métrage Skizen. Le film avait été un succès critique et public, puisqu'il avait rassemblé, si mes chiffres sont exacts, ce qui n'est jamais certain, plus de 220 000 spectateurs. Je rappelle qu'il avait également remporté, entre autres distinctions, le César du meilleur film d'animation. Il nous revient cette fois, vous allez me corriger si j'ai des âneries, mais il m'a semblé apercevoir son nom au générique. Il nous revient cette fois avec un film en prise de vue réelle, émaillé toutefois de quelques séquences d'animation, supervisées par Gilles Cuvelier. Voilà, donc je ne me trompe pas. Auteur notamment des très beaux Full-Time Job et Petit Cogneur, mais je laisserai, s'il le souhaite, Francis et Alexis vous en dire un mot. Le sujet, en quelques mots, donc nous suivons donc Elsa, 23 ans, dont le frère, quelques années plus tôt, a disparu au cours d'une mission spatiale, disparition dont elle ne s'est jamais remise. Elle est un jour contactée par une forme de vie extraterrestre qui s'adresse à elle via un drôle d'implant auditif. Soit dit en passant, si vous avez, comme moi, des acouphènes, pensez à prendre vos protections si vous allez voir le film. Cela pourrait vous occasionner quelques souffrances. Donc, elle est contactée par une forme de vie extraterrestre qui la met en contact avec son frère et prétend être en mesure de le ramener sur Terre, à condition toutefois qu'elle suive ses instructions. Et quelles instructions ? À l'affiche, on retrouve de tous les plans, ou presque, Megan Northam, vue notamment dans Salade grecque, la série de Cédric Clapiche, à ses côtés Sophia Le Saffre, Sam Lewick et Catherine Salé. Voilà un film dont l'ambition, celui d'un récit de SF lofi à l'économie et plus ou moins rivé à sa figure centrale, me plaît beaucoup, comme me plaisent certaines des visions qu'il émaille. Suis-je aussi convaincu en termes d'écriture ? C'est un peu moins sûr. Quoi qu'il en soit, je tenais à ce qu'on évoque le travail de Jérémy Clapin, que j'aime beaucoup et qui, de toute évidence, est un cinéaste en mouvement. Messieurs, qu'en avez-vous pensé ?
Je peux commencer,
Simon. Allez, Simon.
Je pense que tu as dit un peu, tu as mis les mots sur ce que je pensais sur le film. Je trouve
mais
que
mais on me le dit souvent. On me le dit.
Voilà. Excuse-moi.
On arrête là, donc c'est bon, ça y est.
Bon, on arrête ça. Non, effectivement, j'aime beaucoup le parti pris. Il y a une ambition, il y a une originalité dans la sobriété du film, notamment dans son approche formelle. Il y a des passages. Animé, il y a des passages où dessinés que je trouve très intéressant, qui met au service justement pour illustrer certains éléments futuristes et qui permet aussi d'évacuer cette problématique peut-être liée à une économie de moyens. Je trouve qu'il y a des choses très ingénieuses sur le plan formel. Il y a aussi de jolies citations au cinéma de genre. Il y a plein de choses intéressantes, mais voilà, le problème que j'ai avec le film, et j'ai pas réussi à l'identifier après la projection, mais au fil des jours, je pense qu'il y a un problème d'écriture, effectivement, dans le film, et notamment du personnage principal. Je trouve qu'elle est de tous les plans, mais je n'arrive pas à la saisir à un moment donné. Je trouve qu'il y a un manque de consistance. Je trouve que la réflexion autour du traumatisme et de l'absence et reste plus ou moins en surface dans la substance. J'étais un peu frustré parce que j'aime à peu près tout ce qu'il propose de manière formelle à l'image, l'irruption du fantastique. Je trouve que le travail sonore est très intéressant, mais voilà, ça manque de fond pour moi, je trouve.
Alors, Francis,
je sais pas comment je vais réagir. Si je vais réagir par un biais, par rapport à ce qu'a dit Simon, que je peux comprendre, qui me gêne pas, mais que je peux comprendre. Non, je vais réagir par un biais. Je vais dire que Megan Northam, on l'a pas découverte que dans Salade grecque, heureusement. Hein, on l'a découverte chez Michael Hirst aussi. Et... il fallait le dire à un moment, quoi. Les Passagers de la nuit, où non, moi je trouve qu'elle était resplendissante. Et même dans Fifi, le film d'Aslan et Saint-Gillan.
Alors, j'ai pas vu Fifi, mais effectivement, dans Les Passagers de la nuit, elle était excellente. Et puis je m'en excuse d'avoir cité uniquement Salade grecque, d'autant plus que c'est une très mauvaise série. Dont elle tenait l'un des premiers rôles. Voilà, mes excuses à Cédric Clapiche, mais
qui nous écoute et bon, mais il refera autre chose derrière, c'est pas grave. Moi j'ai envie de dire que par rapport à, je vais employer le mot, hein, c'est pas impossible non plus, à l'œuvre de Jérémy Clapin, je trouve que ce qui est beau dans le film, c'est que même en changeant de technique cinématographique et en abandonnant
en majeure partie le cinéma d'animation. Il garde quelque chose que moi j'ai toujours aimé dans ses films, dans la tonalité de ses films, c'est leur mélancolie intérieure. Et qui est une mélancolie qui existe depuis ses premiers films, depuis une histoire vertébrale, et qui est toujours une mélancolie finalement qui amène à un sentiment d'étrangeté. Tu parlais de Skigzine tout à l'heure, bah voilà, Skigzine, c'est l'histoire d'un homme qui vit à 91 cm de lui-même, donc étrangeté. Bah évidemment, j'ai perdu mon corps, cette histoire de main indépendante du corps et qui cherche à retrouver le corps auquel elle appartient, donc toujours cette étrangeté. Et puis, on n'oubliera pas, et je sais que c'est un film auquel Alexis tient beaucoup, bah, Palmipedarium, qui là quitte l'espèce humaine, mais qui finalement est le portrait d'un vilain petit canard. Voilà, donc toujours de l'étrangeté, et je trouve que bah, finalement, cette étrangeté, il arrive à la garder, puisque le personnage d'Elsa, en fait, elle cherche constamment, elle s'abîme dans la tentative ou la tentation de reconstruire une part manquante d'elle-même. Donc, cette part manquante, c'est ce frère avec lequel elle parle dans sa tête jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec lui. Et je trouve que là, bah, tu parlais effectivement des quelques séquences d'animation que je trouve alors d'une mélancolie incroyable. En plus, c'est une séquence en noir et blanc. Donc, qui viennent trancher avec l'esthétique du film et qui, je trouve, en quelques plans, on a parlé l'année dernière à cette même antenne de films d'animation dans des mondes futuristes, donc pour citer le film de Mars Express, où on a toujours l'impression que cette société futuriste est un décor, mais qui n'est pas tant incarné que ça. Et ici, en quelques plans, tout est incarné de ce décor futuriste, et peut-être parce que les personnages ne sont pas sans arrêt dans un mouvement, dans une course de thriller où il faut mener une enquête, découvrir l'aspect sordide de ce monde derrière le bel apparat. Et je trouve que ça, c'est très très réussi, cette station orbitale. Et puis bah après, oui, je rejoins aussi Simon dans les choses qui m'intéressent, mais et notamment bah voilà des moments où allez, Jérémy Clapin se permet tout ce qui est possible de se permettre, c'est-à-dire je vais faire un Rap and Revenge qui va être un mélange de qui va être un peu Massacre à la tronçonneuse, je n'en dis pas plus. Voilà, j'ai tout dit sur Love Lies Bleeding, pour les autres je me tais.
Je n'en dis pas plus. Je vois pas très bien ce qu'il reste à dire, mais
j'ai pas dit comment c'était mis en scène.
Certes.
Ah. Alors, tout de suite, on me prête des intentions alors que je défends.
Est-ce que vous mettez un truc du style, attention, cette émission divulgue plein de choses sur les films.
Et donc, voilà, je trouve qu'il se permet des extravagances. Et puis, en même temps, il y a aussi tout ce regard, toute cette délicatesse apportée au contact du personnage avec d'autres personnages et qui sont les personnages, finalement, de l'endroit où elle travaille, puisqu'on peut le dire en deux mots, elle travaille dans un EHPAD, et que je trouve qu'il y a quelque chose comme ça d'une tendresse, d'une douceur, du contact. Finalement, on peut en revenir à « J'ai perdu mon corps », la main qui touche. Et je trouve que tout ça, finalement, il le réussit très bien, et même si j'entends complètement les soucis d'écriture dans la structure du film, je trouve que le film est tellement porté par cette mélancolie que moi, j'adhère complètement.
Alexis, alors, je sais que tu aimes énormément le travail de Jérémy Clapin.
Je vous avoue que quand vous m'avez invité, j'ai fait wow, c'est trop bien, ça me fait plaisir de parler de cinéma. Et quand après j'ai réfléchi, je dis ah, faut que je parle du cinéma de Jérémy Clapin, qui est un ami, c'est quelqu'un que je connais bien. Je me suis dit, je crois que j'ai détesté, je vous ai détesté en disant pourquoi vous avez fait ça. Ce qui fait que je pense que j'ai vu le film aussi de manière un peu crispée par rapport à ça, en me disant qu'est-ce que je pourrais en dire. Juste une petite chose de travers, Gilles Cuvelier, parce qu'on en a parlé, j'ai voulu en parler pour le Long Sang Soo juste avant. Revoyez Chahut, qui est en ligne avec une fin qui est très proche de celle du Hong Sang Soo. Il y a quelque chose d'assez étonnant sur la plage, la mer, est-ce que ça peut apporter, et qu'il y a même dans Sainte-Maude, même à un moment donné. Donc voilà, juste pour ce petit passage. Compliqué. Je suis en admiration devant Jérémy Clapin. J'avais toujours dit que s'il y avait quelqu'un qui, pour moi, dans l'animation, pouvait réussir le passage à la prise de vue continue, c'était lui. Je trouve qu'il réussit à faire un pas de travers. Et vous avez dit beaucoup de choses, et Simon et Francis déjà, que je trouve exceptionnel. Je trouve que c'est d'une réussite. Enfin, moi, en tout cas, j'ai de suite pensé. C'est peut-être ça qui m'a un peu. Ça a été un peu difficile dans le film Under the Skin. Le film fait penser à ça. Malheureusement, peut-être qu'il ne.
Je n'y avais pas pensé non plus. Je vois que Francis se prend quasiment la tête. Mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Comme aurait dit.
Et voilà. Et il y a ça avec en plus un personnage féminin, voilà, absolument incroyable. Et je pense que ça m'a un peu dérangé, parce que, mais c'est son second long métrage aussi. Alors, voilà, je pense qu'il y a plein de réussites dans le film, il y a plein de forces dans le film. Il renouvelle son style. Je trouve qu'il y a une volonté de plus de réalisme dans l'atmosphère. Je trouve que ce qui est le plus réussi dans le film, c'est d'être si proche de Palmi Pedarium, qui est mon film préféré de Jeremy Clapin, que je trouve incroyable. Et je trouve qu'il y a cette espèce de côté un peu presque poisseux, ou en tout cas, on ne sait pas trop où elle va. Est-ce que. Décidément, c'est comme cette mode. Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce que c'est vrai? Etc. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire là-dedans. L'actrice, qu'est-ce qu'on peut dire? Enfin, elle est complètement habitée par le film. Elle est dedans. Moi, je suis. Par contre, j'avoue que j'ai complètement suivi dans cette espèce de folie qu'elle peut avoir. J'ai trouvé vraiment.
Et puis tu l'avais découverte dans Salade Grecque.
Très récit que j'avais. Voilà, évidemment, que j'avais adoré.
J'avais adoré
Salade Grecque.
Très, très grande série.
C'est... Mais je pense que même, c'est une série qui est. Enfin, on va la découvrir.
C'est une sorte d'état des lieux du monde.
Je pense aussi.
Il va nous falloir un peu de recul.
C'est voilà. Complètement ça. Et je vous promets, j'essaierai de la regarder avant la prochaine. Parce que je ne savais même pas qu'il y avait une série de Cédric Clapiche. Donc voilà. Non, mais je trouve qu'il y a.
Je ne fatigue pas.
Je trouve qu'en tout cas. C'est drôle parce que quand on en a parlé un tout petit peu, t'as parlé d'un geste et je pense qu'à des moments donnés, il y a des gestes qui sont courageux et je pense qu'il faut les pousser, ces gestes-là. Et je suis complètement d'accord. Moi, il y a, dans l'écriture d'ailleurs, il y a des scènes qui m'ont gêné, dont la scène dont t'as parlé, Francis, que je ne comprends pas, j'avoue. Je trouve qu'elle est hors de propos pour moi, en tout cas. Alors qu'en fait, si on était quand même un peu, enfin, dans cette espèce de moiteur qu'elle est, où on sait pas trop où elle va, où on sait pas, elle est complètement perdue. Et moi, j'aime être perdu avec elle. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, je trouve qu'on est dans la forêt. Enfin, on va trop en dire qu'elle se porte. La forêt, les EHPAD, ça marche. Hein, la forêt de Mogari, Nami Kawase, on ne va pas continuer mais avec ces personnages. Non, mais c'est pour ça, la forêt est sublime. Ça, le fait qu'ils se perdent, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le film. Et voilà. Et, deux dernières petites choses très rapides. J'avoue que là où j'ai perdu mon corps, j'ai adoré la musique de Dan Levy. J'ai eu un peu plus de mal ici avec la musique de Dan Levy. J'ai essayé de la réécouter, mais elle n'est pas en ligne pour l'instant. J'avoue que c'est quelque chose qui m'a... Alors, vraiment, j'avais adoré dans J'ai perdu mon corps. Et j'avoue que moi, les parties animation sont magnifiques. Elles ne m'ont pas apporté, à part, je crois, à la fin, quand on a un plan assez large, avec nos deux personnages, et il y a un côté un petit peu... voilà, quand on est dans un hommage à Matsumoto, Goldorak, enfin, hein, évidemment... Je sais pas, en fait, pour tout vous dire, pour conclure, j'ai hâte de revoir le film, peut-être de manière un peu plus posée. Il y a une avant-première d'ailleurs bientôt, MK2 Bibliothèque, avec un scientifique, justement par rapport au souvenir. Puisque c'est un film, évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec le souvenir, et d'autant plus aujourd'hui, on va pas en parler, mais avec les intelligences artificielles qui nous permettent de garder ce souvenir de plus en plus longtemps. Et je pense que c'est un film qui, moi, en tout cas, va grandir, en tout cas, va évoluer. Grandir peut-être, va évoluer quand je vais le revoir une seconde fois. Et c'est intéressant ce que tu disais, Simon, en disant que ça t'a pris plusieurs jours pour te poser des questions sur le truc. Je pense que c'est la même chose pour moi et que j'ai hâte de l'avoir sans me dire je vais en parler. Mais peut-être que voilà, je vais en. Ben voilà, c'est un film en tout cas. Le geste est. Je pense, je sais pas si j'ai vraiment dit des choses intéressantes, mais ça va. Mais non,
si,
pas,
si, si, vous êtes comme toujours parfait, messieurs.
Pendant ce temps sur Terre, le film est donc à découvrir à compter du 3 juillet.
Ah, 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 ah de suerte, ojos que os detenéis. Con ganas de darme muerte, el morirme es dulce suerte, ojos que os detenéis. Muerto volved a mirarme, acabad ya de matarme porque me resucitéis. Muerto volved a mirarme, acabad ya de matarme porque me resucitéis. Toda a sorte quiso me dar a da morte, de maneira me sucede. Alma e vida, toda a sorte quiso me dar a da morte, de maneira me sucede. O que temo, o que desejo, o que sempre, o que temo, vejo, não qualquer vontade pede. O que temo, o que desejo, o que sempre, o que temo, vejo, não qualquer vontade pede. Cierto es la mía, el morirme es alegría y así digo que acabéis. La llaga, cierto es la mía, el morirme es alegría y así digo que acabéis. Ojos ya de matarme, muerto volved a mirarme porque me resucitéis. Ojos ya de matarme, muerto volved a mirarme porque me resucitéis. Ojos ya de matarme, muerto volved a mirarme, porque me resucitéis. Ojos ya de matarme, muerto volved a mirarme, porque me resucitéis. Ojos ya de matarme, muerto volved a mirarme, porque me resucitéis.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonheur, Francis Gavel au micro. Associant dès le titre de son album Fado Camoès, la suggestion mélancolique du Fado et la poésie épique du XVIe siècle de Luis Vaz de Camoès, la fadista Lina s'inscrit dans, certes dans la tradition musicale et littéraire du Portugal, mais la contourne également en choisissant de confier la réalisation de son disque au producteur britannique Justin Adams, connu pour son engouement pour l'Afrique et ses collaborations avec Tina Riwen, Rachita ou Swad Massi. Ici, la Sodade se fait donc un peu plus pop, le synthé basse pouvant répondre à la guitare classique, mais sans rien perdre de son élégance épurée et de sa langueur vocale. Une façon aussi de faire le lien avec notre deuxième partie d'émission consacrée au Festival international du film d'animation d'Annecy, dont le Portugal était le pays invité, à travers un hommage en 7 programmes, des origines dans les années 1920 à la génération du nouveau siècle. Alors, avant de retrouver notre trio de chroniqueurs. Donc cette fois-ci, nous échangeons nos places, Thomas et moi, puisque Thomas va participer au retour sur les films. Et évidemment, nous restons en compagnie de Simon et d'Alexis. Je vais vous livrer quelques mots sur cette édition 2024 qui s'est tenue du 9 au 15 juin dernier. Alors bon, suprématie contemporaine de l'approche comptable, procédons à l'affichage rituel des chiffres. Alors, on va dire d'abord 3400 films reçus. Toutes catégories confondues, courts, longs, films de fin d'études ou de télé, œuvres en réalité virtuelle, pour un total de 201 films présentés en sélection officielle. Je n'évoque pas ici, pardon, les programmes hors compétition, et un total d'entrées en salle de 125 000 spectateurs.
Deuxième chiffre, 17 400 professionnels accrédités, représentant 103 pays. Alors évidemment, une réflexion à l'appui de ces chiffres qui peuvent un peu donner le tournis. Est-ce que le festival ne deviendrait pas la victime de son propre succès, porté par un accroissement exponentiel, dont certains, à l'instar d'Ami Damidi, fondateur de Cartoon Brew, un des sites de référence en matière de cinéma d'animation, regrette le double déplacement de l'ADN du festival qu'il induit, du cinéma indépendant vers le cinéma de studio, Hollywood peut-être visé en premier lieu, et puis du court-métrage, un cœur du festival tout au long de ses 64 premières années d'existence, vers le long-métrage. Alors, justement, afin de replacer en son centre l'âme de la création du cinéma en matière de cinéma d'animation, eh bien, choix a été fait pour notre table de ronde critique de nous concentrer uniquement, et oui, c'est exceptionnel, sur le court-métrage. Alors, après les chiffres, les récompenses, hein, on continue dans les choses forte, importante, mais en s'en tenant exclusivement donc à la référence, à la distinction suprême obtenue, c'est-à-dire le cristal dont on pourra
c'est
dire...
C'est pas le prix André Martin ?
C'est pas le prix André Martin. Dont on pourra
mais
dire...
Mais peut-être sera-t-il question du prix André Martin.
Ça, vous ferez ce que vous voulez. Dont on pourrait dire, arrêtez de nous couper comme ça, c'est très désagréable.
Et c'est pour te mettre en valeur, François. C'est pour voilà. Évoquer quelques-unes des activités innombrables que...
Quand même, un truc que tu as créé.
Quand même, exceptionnel.
Voilà. Alors, excusez-les, chers auditrices, chers auditeurs. Donc, je reviens au cristal, qui est, on va dire simplement, l'équivalent pour le cinéma d'animation, peut-être de la Palme d'Or. C'est pour simplifier. Alors, il y a le cristal de l'œuvre VR, c'est-à-dire en réalité virtuelle, un film qui s'appelle Gargoyle Doyle d'Ethan Chaftel. Le cristal du film de fin d'étude a été décerné à Carotica de Damien Sterling Atman. Cristal pour une production télé Une guitare à la mer de Sophie Rose. Cristal pour un film de commande, il y a aussi un cristal de ce côté-là. Pictoplasma Opener 2023, le film d'ouverture du festival Pictoplasma 2023, réalisé par Will Anderson. Un cristal sur lequel on va revenir dans un instant, qui est le cristal du court-métrage pour le film Persebes d'Alexandra Ramirez et Laura Consalves. Et puis le cristal du long-métrage Memoir of a Snail, en français Mémoire d'un escargot, d'Adam Elliott. Alors tout ça, effectivement, ça fait peut-être beaucoup de titres, beaucoup de films dont on se dit...
Et vous pouvez voir, pardon, le cristal pour une production télé, Une guitare à la mer, en ce moment sur France Télévisions, sur le site, donc si vous voulez le voir.
Voilà, et justement, j'en arrivais là pour vous signaler que, bien évidemment, ces films dont on va parler sont peut-être plus difficiles à voir, mais on va à chaque fois vous proposer l'endroit où on veut les voir, et un des endroits importants où on va pouvoir les voir, c'est la reprise du Festival d'Annecy au Forum des Images. Ça aura lieu mercredi 26 et jeudi 27 à 18h30 et 21h. Alors, comme le précisait Alexis, le spécial télé de Sophie Rose, Une guitare à la mer, y sera présenté. Mais on pourra voir aussi bah, le film dont on va parler dans un instant, Persebes. Et puis, bien sûr, on pourra y voir, puisque là, pour parler un petit peu de long métrage, parce que les films valent la peine d'être vus, Memoir of the Snail d'Adam Elliott. Et puis, un film qui était arrivé à Annecy avec... porté par sa réputation cannoise, par l'engouement qu'il avait eu quand il avait été présenté à un certain regard, c'est Flo de Jean Zilbalotis qui est reparti d'Annecy avec une razzia de prix, c'est-à-dire quatre distinctions dont on peut préciser à la fois le prix du jury et le prix du public.
Et cette phrase stupide de Guillermo del Toro qui a juste vu quelques images et qui a dit « J'aimerais que ceci soit le futur du cinéma d'animation. » Juste avec quelques images de Flo... Voilà, Guillermo del Toro est notre nouveau guide suprême.
Voilà.
En animation, visiblement.
Voilà, donc je ne comptais pas parler de Guillermo del Toro, donc on va passer à autre chose.
Justement, c'était
voilà,
justement.
On pouvait compter sur Alexis.
Quand deux animateurs se retrouvent à une même table, là, il y a une sorte de
Thomas de Coupe, donc c'est pour ça que je me suis permis.
Alors, on va tout de suite. Donc, choix a été fait de parler de trois courts-métrages qui étaient présentés dans la compétition L'Officiel, et ce sera trois courts-métrages parmi un total de 31 films présentés. Alors, eh bien... Commençons par le cristal du court-métrage, Persebes, en français on pourrait intituler le film Bernacle, d'Alexandra Ramirez et Laura Consalves. C'est un film donc portugais, c'est une coproduction avec la France. Alors je vous livre le synopsis, chères auditrices, chers auditeurs. Sur fond de mer et d'algarve urbaine est évoqué le cycle de vie d'un mollusque appelé Persebes ou pousse-pied. De sa croissance à sa commercialisation nourricière, c'est aussi de l'existence quotidienne des habitants de cette région dont il est question. Alors, si comme moi, petite précision, vous n'êtes pas familier de la région de l'Algarve, je précise que donc elle se situe au sud du Portugal, qu'elle est bordée par les, l'océan Atlantique et que, bénéficiant d'un climat de type méditerranéen, elle tire la majorité de ses ressources du tourisme. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais quand il est question de films d'animation, on dit tout de suite dans quelle technique c'est fait. Donc là, c'est de l'ordinateur 3D. Voilà, c'est fait. Alors qu'on dit jamais, c'est du... On dit parfois que c'est du scope, mais on ne dit pas quelle pellicule il a utilisé. Quoi. Alors, un petit mot sur les réalisatrices avant de vous livrer le film, cher chroniqueur. On peut dire que ce sont deux réalisatrices qui ont l'habitude de travailler sur les films l'une de l'autre et que ce duo avait été déjà arrivé au festival, en fait porté par une reconnaissance professionnelle acquise avec le film précédent qui est The Garbage Man, alors qui est un court-métrage de Laura Consalves sur lequel Alexandra Ramirez travaillait et qui évoquait la vie d'une figure de sa propre famille, l'oncle Botao, éboueur, poète, capable de transformer en trésor les déchets accumulés tout au long de 30 années d'existence du métier sur le territoire français. Un film qui avait été de fait doublement distingué au Festival du film d'animation de Zagreb en 2022, meilleur court-métrage et prix du public. Alors, cher chroniqueur, votre point de vue sur ce documentaire animé où finalement se mêlent réflexion écologique et questionnement social de la présence endémique du pousse-pied à l'impact local du tourisme de masse. Et je me tourne vers Thomas.
Elle est comme ça, elle brûle pour point. Je ne sais pas si j'ai tant à en dire, mais c'est un film que j'aime beaucoup, qui prouve, alors une nouvelle fois, moi je vais vous resservir mon discours habituel sur l'incroyable vitalité du cinéma portugais contemporain, à plus forte raison dans le domaine, du court-métrage, que ce soit en prise de vue réelle, en animation. Et c'est un film que je trouve assez, assez ravissant, notamment dans sa façon de s'emparer de ce registre, effectivement, qui est celui de documentaire d'animation, qui est devenu un petit peu un truc tarte à la crème quand même ces dernières années, c'est-à-dire que ça c'est devenu un petit peu presque épidémique et que ça a poussé certaines cinéastes à une forme de paresse où on allait recueillir des paroles, faire des prises de son et puis par-dessus on essayait de caler une sorte de projet formel plus ou moins pertinent. Moi je trouve que le film est vraiment beau dans ce qu'il dit de son territoire, dans la façon qu'il a de le traverser par le biais de la forme. Ce qui m'intéresse dans le film, c'est outre le travail sur une gamme chromatique qui est quand même plutôt économe, hein, surtout dans des tonalités bleues et rouges, c'est la façon qu'ont les formes justement de vibrer, et puis c'est le travail de la mise en scène, des mouvements d'appareil. Je pense que c'est une chose à laquelle tu es sensible dans le cinéma d'animation, Francis, hein, c'est-à-dire qu'évidemment le cinéma d'animation c'est de la mise en scène et c'est des mouvements d'appareil. Et je pense notamment à ce très beau travelling latéral qui commence par glisser sur des architectures pour s'achever sur l'état d'un poissonnier, qui joue comme ça de la différence et de la convergence des échelles, et à cet autre très beau mouvement un peu plus tard dans le film, qui dans un restaurant navigue d'une table à l'autre avant de traverser les espaces pour nous ramener jusqu'au bord de mer, puisque c'est un film qui boucle la boucle, hein, qui part de la mer pour y revenir. Et l'usage du mouvement de caméra pour unifier, traverser les espaces et raconter un territoire, moi je trouve que c'est vraiment ce que réussit le plus le film. Voilà, je sais pas si j'ai beaucoup plus à en dire, mais c'est un film que je trouve assez beau. Mais je trouve que on y viendra pour les films suivants. Moi j'ai été très bon public dans la sélection que tu nous as proposée, Francis.
Simon, je me tourne vers toi parce que j'ai vu que tu avais un peu acquiescé sur l'idée de mise en scène.
Oui, je suis d'accord, je rejoins complètement Thomas. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans la manière dans ce qu'il raconte, mais aussi dans ce qu'il met en scène, c'est vraiment cette impression de fluidité, de mouvement permanent. C'est-à-dire que chaque objet a une symbolique, une signification très forte, et je trouve qu'il y a un art de la transition dans ce court-métrage qui est admirable et surtout qui, je trouve, illustre un peu ce flux de conscience, ce flux de parole qui, certes, prend la forme documentaire ici, mais qui traduit un certain naturel dans ce que ça raconte, dans ce que ça veut raconter, oui, sur le Portugal et sur Algarve. Et je trouve ça très, très subtil et en même temps très poétique. Et oui, il y a une espèce de métaphore de mouvement comme ça, comme si on était sur en mer en fait. On est un peu bercé. Je trouve que c'est très réussi, moi, formellement. Je trouve. J'ai été très charmé.
Tu parlais de, je rebondis sur ce que tu disais. Tu parlais de flux de conscience. Je pense que tu mets beaucoup mieux que je ne le fais moi-même des mots sur les choses ou sur ce que j'essayais de dire. C'est que par le biais, par la grâce, pourrait-on dire, même de la mise en scène, des témoignages, des prises de parole éparses, très diverses et variées, deviennent justement un flux de conscience, le flux de conscience d'un territoire, et je trouve que ça, c'est ce que prend en charge le film. C'est peut-être ce que je voulais dire un petit peu plus confusément avant ta prise de parole.
Alexis.
Ouais, c'est joli.
Je sais pas si c'était très clair.
Non, c'est très clair. Mais... Non, si c'est joli, c'était pas par rapport à ce que tu disais, je trouve le film joli. Moi, je suis un grand fan du cinéma d'Alexandra Ramirez. J'aime beaucoup Laura Gonzalez, c'est une personne absolument incroyable. C'est son troisième documentaire animé après son qu'elle a fait. Justement, je trouve que cette fluidité, moi, m'ennuie quelque part. Je trouve que le film, encore une fois, je le trouve joli. J'ai rien à, je veux pas forcément appuyer sur toutes les choses méchantes que je pourrais dire. Je trouve que le film se regarde, il est agréable. C'est un peu comme une chanson de U2, with or without tourism. Hein, il y a un côté un petit peu, voilà, on la retient, mais voilà, un peu comme son film Garbage Man avant, où on parle un petit peu du colonialisme portugais, mais pas trop non plus. Là, pareil, on dit oui, on a besoin du tourisme, mais on n'en a pas besoin, mais on est ceci, etc. Donc, cette fin, en effet, devient un peu plus passionnante que juste de savoir, même si c'est rigolo de savoir que ce truc est un peu gluant et qui fait peur aux touristes, etc. Je trouve que c'est un peu le... Il y a deux pendants dans Bab Studio, qui est donc ce studio portugais, qui est ce nouveau gros studio portugais. Il y a le cinéma de David Doutel et de Vascosa, dur, qui montre un Portugal... ils sont plus âgés et qui montrent un Portugal en proie à des démons qui sont les incendies qui sont chaque année qui montrent la pauvreté, qui montrent une pauvreté, une richesse, enfin voilà, qui montrent. Et il y a le cinéma d'Alexandra Gonzalez, plus jeune, et c'est très bien, qui montre plutôt un côté plus joli, plus beau et montré, et de comme s'il fallait laisser ces démons derrière. C'est un
cinéma social-démocrate. Non, c'est ce que tu lui reproches. C'est quasiment un postulat politique.
Je te remercie. Tu vois, finalement, tu en parles mieux que moi aussi. C'est bien cet échange. Non, mais je trouve que le film.
Mais cette émission aussi est un flux de confiance. Hein.
Non, et puis alors, c'est dommage, hein, mais les films, en plus, quand d'un seul coup, il obtient le plus grand prix d'Annecy et qu'on regarde le film et que moi. Dieu sait s'il y avait des films à l'intérieur de cette sélection qui étaient, et on en reparlera d'autres, largement plus forts que celui-là. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez, mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'on peut aimer un film. Le film, je l'avais vu une première fois, sympathique, etc. Et d'un seul coup, on lui donne un grand prix et on fait juste... Ben, et ce grand prix, malheureusement, je trouve un peu comme des fois, je suis des palmes d'or, des choses comme ça. On se dit, ben non, finalement, le film est bien, mais est-ce qu'il avait besoin de cette reconnaissance-là? Et je pense que ça a joué aussi un peu. Mais je trouve que c'est un film... sympathique, avec des bonnes envies. Et encore une fois, ben pourquoi pas cette opposition dans la même structure de production, d'un côté plus dur du Portugal et un côté un peu plus léger, ça fait du bien aussi.
Voilà, alors, donc, c'est Persebès, hein, je le rappelle néanmoins, donc, d'Alexandra Ramirez et Laura Gonçalves, qui sera visible, donc, dans le cadre de la reprise au Forum des Images, le mercredi 26 et le jeudi 27 juin. Alors, passons à un autre film, peut-être à un autre statut d'auteur. Peut-être Alexis nous en dira deux mots à ce moment-là, puisqu'on va parler du Tableau de Michel Lemieux, qui est donc un film canadien. Je vous en donne tout de suite le synopsis. Quelque chose de très différent. Revisitant le tableau de Velázquez, la reine Marianne d'Autriche, le film revient sur le destin tragique d'une femme mariée à 14 ans à son oncle de 30 ans, son aîné, Philippe IV d'Espagne, et qui mettra au monde 5 enfants, fruits de 16 générations d'union consanguine, morts prématurés ou congénitalement inaptes à régner. Ainsi d'ailleurs s'éteindra la dynastie des Habsbourg d'Espagne. De ce tableau, peint par Velázquez en 1652, émerge le portrait d'une femme, alors âgée de 18 ans, dont le regard laisse transparaître solitude et tristesse. Alors là, technique, parce que alors là on arrive, attention, comme il y a le cristal dans les prix, il y a... La technique majeure, l'écran d'épingle, cet écran d'épingle dont Alexis Huneau suit l'histoire depuis les années 1930.
Merci.
De rien. Puisqu'on rappelle, donc, pour vous éviter d'avoir à parler de l'écran d'épingle en tant que tel, je vais donner à nos auditeurs.
Merci d'avance.
Oui.
Je comptais proposer à Simon de présenter l'écran, mais bon, j'ai décidé d'être généreux.
Et ensuite de nous expliquer du début jusqu'à la fin les tenants et aboutissants de la franchise Matrix. Voilà.
peut-être. Alors ça, je laisse Simon faire. Alors, l'écran d'épingle, donc, comme je le disais, a été inventé dans les années 1930 par Alexander Alexeïev et Claire Parker. Et donc, c'est un appareil qui est constitué d'un écran vertical percé de milliers de minuscules trous dans lesquels sont insérés des épingles noires dépassant de quelques millimètres à peine à la surface et que l'animateur, à l'aide de divers objets, galets en verre, peigne d'aiguilles ou petits rouleaux, vient enfoncer plus ou moins profondément, jouant ainsi des noirs et des blancs afin de créer, pratiquement sculpter, un dessin en relief. Éclairé par une lumière qui est diffusée de biais sur l'écran, les épingles projettent de ce fait leurs ombres et composent une image à la fois complexe et subtile, aussi évanescente que charnelle, qu'il suffit ensuite de photographier au moyen d'une caméra posée devant l'écran. Cette première image élaborée, il convient alors de la modifier légèrement pour en définir une deuxième et obtenir de cette façon, image par image, 24 au total, une seconde d'animation. Voilà, c'est important peut-être de préciser pour les auditeurs et les auditrices qui ne seraient pas au fait de cette technique assez spécifique. Alors, deux mots sur Michel Lemieux avant de vous laisser la parole. On peut dire que Michel Lemieux, au point de départ, est une autrice et illustratrice reconnue dans le monde de la littérature jeunesse et qu'elle débute dans le cinéma d'animation en 2003 en adaptant un de ses propres textes. En 2006, suite à un atelier d'initiation à l'écran d'épingle, justement, donné par le cinéaste Jacques Drouin à l'ONF. Alors l'ONF, je précise là aussi, puisqu'on n'est pas dans Bulle de rêve, donc nos auditeurs ne sont pas tous des spécialistes du cinéma d'animation. C'est l'Office National du Film qui est une véritable institution, un véritable laboratoire qui se situe donc au Canada de la création animée depuis l'impulsion qui a été portée par Norman McLaren à son arrivée en 1941. Elle devient donc, Michel Lemieux, dépositaire de cet instrument patrimonial et entreprend la réalisation d'un premier court-métrage avec cette technique, Le Grand Ailleurs et Le Petit Ici. C'était en 2012. Et puis, soucieuse de transmission, elle initie à son tour, en 2015 à Annecy, huit artistes français de générations différentes à la pratique de l'écran d'épingle. Alors, pour avoir maintenant votre regard sur ce film d'une femme qui réfléchit à un destin de femme, sur ce film qui préserve les attributs de l'immobilité et de silence propre à la peinture, en créant le mouvement par une succession d'images fixes liées entre elles par des jeux de lumière et de couleurs. Alexis Huneau.
J'ai plus rien à dire, non, t'as... Alors, autant j'ai trouvé Persepolis joli, léger, autant le tableau est juste pour moi une pure merveille. Pour moi, c'est, voilà, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un film d'animation presque aussi extraordinaire que ça. Je trouve que c'est une hallucination, il essaie de la traversée d'une vie avec ses nombreux plans fixes, elle ose plein de plans fixes, qu'en animation est toujours une problématique, hein, mais c'est pas animé, etc. Moi, j'étais... à la fois perdue, je trouve qu'elle va largement au-delà de la technique, justement elle joue pas sur ce qu'elle faisait avant, souvent on tourne autour de l'écran d'épingle, il y a un côté un peu, regardez, on est dans cette technique extraordinaire. Moi j'ai été bouleversé, je trouve qu'elle est, c'est un film complètement hallucinatoire, je trouve que la bande son, le trame sonore, au-delà la conception sonore est juste incroyable, elle nous amène dans une angoisse. L'écran d'épingle devient angoissant et menaçant, là où il est souvent joli, entre guillemets, ailleurs. Elle amène autre chose, on est proche de Bacon ou de Lynch, quand d'un seul coup, il y a une espèce de transformation des visages qui nous amène dans ce destin de femme absolument, mais bouleversé, bouleversant. Je trouve que c'est... Enfin voilà, je trouve que là, elle a réussi quelque chose d'extraordinaire avec ce film. Elle est proche de, dans un style différent, de Jacques Drouin, et pour moi, voilà, c'est les deux grands auteurs pour l'instant et autrices de l'écran d'épingle. C'est un film, j'ai vu plusieurs fois, et à chaque fois, je suis amené dans cette douleur, en fait, qui est interne de cette femme, que je connaissais pas, enfin, dont je connaissais pas l'histoire, et avant même les écrans de fin qui nous la racontent, moi je ressens ça d'une manière, mais à chaque fois ça me transperce. J'ai l'impression d'être dans son corps, d'être dans son âme, dans qui elle est, et de faire ça avec l'écran d'épingle.
Je pour être transpercé, ça... c'est mieux.
Merci. Je l'avais pas fait exprès. Il faut que tout mon discours soit.
Ça, c'est une plaisanterie de Connoisseur.
Et donc voilà.
Non, je trouve. Ne tentez pas en soirée.
Oui, ça pourrait faire. Non, je trouve ce film.
Pardon.
Je trouve qu'elle a réussi. C'est Je ne sais pas si Michèle Lemieux, a priori, c'est pas évident qu'elle fasse un nouveau film, parce que ça prend évidemment très longtemps. Je trouve qu'elle a réussi une œuvre exceptionnelle. Et le problème, pour finir, pardon, évidemment, tous ces abrutis n'ont jamais de prix, parce qu'on s'arrêtera à la technique en disant juste « Ah ouais, mais bon, c'est pour l'écran d'épingle, hein, on ne va pas la donner pour l'écran d'épingle. » Et vont louper complètement le film. Je suis désolé, mais je trouve, voilà, c'est un film où leur sang, il est passé sommet, il n'a rien eu, Zagreb, il n'a rien eu. Et là, je suis désolé pour Persepès, qui est un joli film, mais bon. Rien à voir avec le tableau, quoi.
Simon Thomas.
Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'autour de ce tableau emblématique, il y a quelque chose à la fois de l'ordre de la radioscopie, du geste scientifique, d'une enquête que pourraient mener, par exemple, des historiens d'art en utilisant des lampes UV, par exemple, pour en révéler les couches successives, les différentes traces de son exécution, en s'intéressant aussi à des détails de la toile, en isolant des motifs précis. Donc c'est un geste médical aussi, presque médico-légal, on pourrait dire. Il y a une approche très scientifique, là encore une fois, qui consiste à aller traquer derrière les figures de pouvoir, derrière les représentations de la peinture officielle, bah, les os, les chairs, les viscères, la dentition, voilà, pour dire la nature humaine et le devenir cadavre du sujet représenté. Donc il y a ça, et par-dessus, ou en même temps, comme dirait l'autre abruti, il y a quelque chose de l'ordre du poème. Il y a ce cortège de visions, ces voix, ces respirations, et j'ai l'impression que la cinéaste cherche à nous mettre en contact avec son sujet, presque à la faveur d'une communication médiumnique, quelque chose de l'ordre que je trouve vraiment très beau, très émouvant, parce que c'est une vérité admise que les œuvres nous regardent autant que nous les regardons, qu'il y a une réciprocité entre elles et nous. Et puis, il y a autre chose que j'aime beaucoup, c'est que, évidemment, c'est une critique, le mot est faible, de la violence faite aux femmes, de leur suggestion sexuelle, de l'inceste institutionnalisé que tu évoquais, Francis. Et c'est aussi, donc, par ricochet, une critique du régime de représentation qui, d'une certaine façon, en était complice, c'est-à-dire la peinture officielle. Mais c'est dans le même temps une célébration du génie de Velázquez, parce que sans la puissance de cette représentation, Marianne d'Autriche, elle ne s'incarne pas devant nous comme elle le fait ici, et le film n'existe pas. Et puis bon, bah voilà, mais Alexis en a déjà parlé, il y a l'animation qui est brillante, le travail des textures sonores, tu en as parlé, le travail des teintes bleu-grises notamment, de la lumière, bon voilà, je suis pas loin de penser que c'est un grand film. J'aurais tendance à dire le deuxième de suite sur l'écran d'épingle, après La saison pourpre de Clémence Bouchereau, que nous avions sélectionné à la semaine de la critique, je le rappelle, un petit peu d'auto-célébration, ça me fait pas mal. Voilà, moi je suis complètement d'accord avec Alexis, je pense que c'est possiblement un grand film, voilà, que j'ai vu effectivement plusieurs fois, je trouve ça assez stupéfiant. Oui.
Si.
Moi je suis un peu embêté parce que je vais paraphraser mes camarades. Alors moi c'était une double découverte, parce que je crois que c'est la première œuvre que je découvre en écran d'épingle, et donc j'ai été un peu, je dois avouer que j'étais un peu intimidé par l'approche technique presque scientifique, comme tu disais Thomas, du film. Et donc je me suis dit oula, qu'est-ce que je vais pouvoir saisir, qu'est-ce que je vais pouvoir ressentir, parce que j'étais pas non plus très familier avec l'œuvre de Velázquez. Enfin, je la connais sans être un expert, et je me suis dit ou est-ce, j'ai peur de pas être assez bien, de pas être à la hauteur de cette œuvre. Donc j'essaie de me raccrocher à ce que j'ai pu remarquer, et je trouve admirable en fait le fait de miser sur la force évocatrice des images, c'est-à-dire qu'il y a aucune parole, il y a que des textures sonores en fait qui viennent s'ajouter à la force des images, et je trouve ça très fort parce qu'elle arrive à raconter beaucoup de choses encore une fois avec très peu de moyens, en tout cas discursifs. Et donc le jeu d'ombre évidemment renforce l'innocence des visages enfantins, rend les visages adultes un peu plus monstrueux. Donc effectivement on arrive sur le terrain de cette violence institutionnalisée, et c'est très intéressant. Mais je trouve que ça va aussi au-delà, l'expérience du tableau va évoluer sur un plan presque transcendantal, c'est-à-dire même si on ne saisit pas tout ce qui se passe d'un point de vue théorique et pratique, il y a quelque chose qu'elle réussit à transmettre, quelque chose de, je dirais presque bouleversant, mais aussi magique, quoi. C'est une œuvre qui à défaut d'avoir peut-être les bagages suffisants pour l'apprécier comme on pourrait l'apprécier de A à Z, je trouve qu'il y a quelque chose qui évolue aussi sur le plan de l'esprit, et c'est assez fort.
C'est un peu esprit, es-tu là, elle fait bouger les tables, moi j'ai vraiment vécu comme une...
C'est complètement ça, Thomas, merci aussi, je suis content, parce que c'est vraiment ça, c'est côté médiumnique, t'as l'impression qu'elle est à l'intérieur
d'elle, de ce personnage. Et donc voilà. Et juste une petite chose, un grand film pour moi aussi, c'est quand il y a des images qui sont peut-être un peu trop évidentes, comme la cage, elle était peut-être enfermée, finalement on les passe. Et finalement, c'est pas très grave, parce que cette image, elle peut être un peu trop évidente, mais c'est pas grave. On rentre dedans et on avance avec. Et ça, je trouve ça aussi admirable.
Bon, bah, donc, merci à tous les trois pour le tableau de Michel Lemieux, dont on peut dire aussi, et je ne révélerai pas cette, la fin en évoquant ce plan, j'ai tout fait pour Love Likes Bleeding, on dira juste qu'il y a un très beau ultime plan du film où peut-être la réalisatrice offre enfin à la reine un moment de repos.
Cansada, ai de sempre ver o mesmo quarto, o mesmo estádio, o mesmo lar. Rua cansada, ai de não sair desta tenda, de pagar a mesma renda. Cria o outro lado da lua. Já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Tenho medo de sair, mesmo quando tenho que ir, fico sempre por aqui. Saber que choras noutra casa e a minha porta nem se abre para fugir. Cansada de ouvir o vento pela fenda, o sol pela janela e a ti num pedaço de aqui. Sabes, já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, tenho medo de sair, mesmo quando tenho que ir, fico sempre por aqui. Sabes, já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, tenho medo de sair, mesmo quando tenho que ir, fico sempre por aqui. Sabes, já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, já nem gosto de sair, já nem gosto de cantar, já não sei como te amar. Sabes, já nem gosto de comer, já nem gosto de compor, já nem gosto de gostar. Sabes, já nem gosto de sair, já nem gosto de cantar, já não sei como te amar.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Francis Gavel au micro. Alors, je me tourne tout de suite vers toi, Thomas, parce que là, c'était une de tes programmations musicales. Qu'a-t-on écouté ?
Tout à fait. Nous avons écouté Cansada de Analua Cayano. C'est extrait de son album Vufica Neste Cuadrado. Et c'est sur l'excellent label Modulor. Allez sur Internet, hein, si vous avez une connexion Internet, hein, en 2024, après tout, hein, ça semble... possible. Vous tapez Modulor, vous allez écouter tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils éditent. Enfin bon, il y a un travail sur la musique contemporaine et sur des choses un peu plus anciennes, sur un travail de patrimoine, on pourrait dire, qui est absolument passionnant. Je te rends la parole, Francis.
Merci, Thomas. Alors, donc, on va finir le dernier film de notre table ronde critique autour de la 48e édition du Festival du film, du Festival international du film d'animation d'Annecy. Pour finir, j'ai choisi un film français à l'intérieur des nombreux films français qui étaient présentés, où beaucoup de films étaient très attendus. Le nouveau film de Florence Mial, Papillon, comme aussi le film de Fabienne Wagner, Plus douce est la nuit. J'ai choisi un film dont on a peut-être très peu parlé. Je ne sais pas trop comment il a été accueilli d'ailleurs, donc qui s'intitule Mon Noir, qu'on doit à un duo de réalisateurs, Jean-Baptiste Pelletier et Erika Haglund. Je vous en livre le synopsis. La petite Marguerite vit un triple deuil. Sa mère, morte en couche, le chien dont elle hérite, puis sa nourrice congédiée par le père. À partir de ses pertes successives, dans la solitude et la nature du Mont Noir, elle s'apprête à devenir écrivaine. Une dernière fois, mon rituel de l'émission, puisqu'on parle d'animation, la technique, c'est un mélange de dessin sur papier et d'ordinateur 2D. Et puis, tout de suite, la chose importante à dire, parce que dès que l'émission finit, chers auditrices, chers auditeurs, vous pourrez regarder le film, puisqu'il est visible jusqu'au 7 août 2024 sur le site d'Arte, dans le cadre de la programmation annécienne du magazine Court Circuit, le magazine du court-métrage d'Arte.
Donc, voilà. On va découvrir à cette occasion-là le film de Florence Mihail aussi.
Exact. Papillon, qui est juste après. Et plein d'autres films, effectivement, intéressants. Alors, un mot évidemment sur les cinéastes. Ce film donc est le fruit d'une collaboration entre une réalisatrice monteuse de prises de vue réelles issue de la FEMIS et un réalisateur animateur formé aux arts déco. Et Mon Noir puise son inspiration initiale dans une série de documentaires animés qui s'intitulait Les Petites Madeleines, initiée par Erika Haglund en 2018 dans le cadre de la résidence en cinéma d'animation de l'abbaye de Fontevraud et dont le projet a priori est en développement et donc avait pour ambition de relater l'enfance d'écrivaines. De son côté, Jean-Baptiste Pelletier s'est déjà intéressé en 2017 à la littérature en réalisant pour la collection Poétique et Jeune Public en sortant de l'école un court-métrage adapté d'un poème de Claude Roy, La Fenêtre Fermée, qui jouait avec une élégance rare sur le cadre offert par la fenêtre. Je reprends ici les mots sur son blog Animez-vous les uns les autres de Stéphane Dreyfus. Alors, je me tourne vers vous trois et je me tourne plus particulièrement vers Simon, cette fois-ci. Ce récit de l'enfance de Marguerite Yourcenar, puisque en effet, donc, il s'agit de l'écrivaine de l'œuvre noire et des mémoires d'Adrien, dans le château familial de Mont-Noir, te séduit-il, j'ai envie de dire, par le double frémissement du trait, des couleurs et de la naissance d'une vocation?
Oui, il m'a séduit, même si je trouve que parmi les films qu'on a évoqués, c'est une proposition qui, sur le papier, est un peu plus, on va dire, un peu plus classique. J'ai trouvé ça très intéressant, cette capacité à sélectionner des images, mais aussi des fragments littéraires de l'œuvre de Marguerite Yourcenar pour raconter justement cette perte de l'innocence, cette interrogation de sa place dans le monde, et puis de comment, en devenant une auteure, en fait, elle tue aussi l'enfant qu'elle était. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a des passages très intéressants. Après, voilà, j'ai été un peu... Comment dire, je suis resté un peu à la surface des choses. Moi, dans la réception en tout cas, je suis resté un peu en dehors de ce qu'il cherchait à raconter, à montrer. J'ai été charmé. J'ai trouvé que c'est, je trouve que c'est une œuvre assez sensible, qui aussi emprunte quelques références aussi un peu à la peinture classique. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait certaines constructions qui évoquaient un peu ce classicisme. Mais voilà, il y a quelque chose qui me retient. Je sais pas si c'est parce que je trouve peut-être l'œuvre un peu trop propre, un peu trop cadrée. Je sais pas.
Alexis.
Alors moi. Je suis un grand fan du cinéma de Jean-Baptiste Pelletier. Son film de fin d'études était aux Arts Déco est absolument extraordinaire. C'est vraiment cinéma, donc je l'attendais énormément, ce film. Peut-être des fois on attend trop les films et c'est toujours un peu compliqué, vous le savez très bien autour de cette table. Je trouve que le film visuellement est très beau, il y a plein de beaux moments, notamment quand il arrive dans la nature, tous ces plans de nature. J'aimerais, alors ça c'est problème du spectateur, des fois on a envie de choses que les réalisateurs et actrices ne veulent pas nous donner forcément, ce qui est normal, mais j'aurais aimé un peu plus de ça, un peu plus de moments de silence, ou en tout cas de ces moments de nature. J'ai trouvé le film un peu trop évident, un peu trop appuyé, en disant « Ah bah tiens, là, il y a la mort de ma mère, il y a la mort de mon chien, il y a la mort de ci, la mort de cela, et quand à la fin, vous m'avez tout pris, j'avoue que j'ai du mal avec la voix off, cette voix off qui me gêne un petit peu dans ce côté qui fonctionne pas tellement, alors que je pense qu'elle aurait... Oh, pareil, on refait des films, ce qui est stupide, mais peut-être parler un peu plus, je sais pas, dire quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui me bloque aussi dans le film. J'avoue qu'il a fallu que je revoie une deuxième fois, j'avais complètement oublié que c'était Marguerite Yourcenar. Parce qu'à la, c'est dit à la fin, enfin voilà, il y a un côté un peu. J'avoue qu'en le revoyant, je me disais, ah bon, c'est quoi déjà cette histoire? Et à la fin, ah oui, c'est vrai, ça nous parle de ça, même si il y a la statue qui est peut-être celui d'Adrien, je sais pas, enfin voilà, il y a plein, en effet, je connais pas assez malheureusement le travail.
C'est un peu Marguerite le prequel. Non, mais il y a un petit peu. Alors je le dis,
c'est Marguerite
Yourcenar pour déconner, mais en même temps.
Non, mais et je vous avoue que la série dont j'avais la chance de parler dans une conférence était tellement intéressante, était tellement passionnante de voir ces jeunes écrivaines qui se battaient, notamment encore une fois, toujours dans ce monde évidemment où plutôt les hommes étaient en avant et qu'elles avaient du mal, et voir comment elles avaient réussi. Je trouvais que c'était une très belle série, et pour les hommes d'ailleurs, et pour les femmes, de montrer qu'on peut réussir. Alors. Dit tout ça, je trouve, voilà, je trouve que après il y a quelque chose de beau dans le film qui m'intéresse, qui est un petit peu, c'est évidemment de parler de la bourgeoisie et de montrer cette petite bourgeoisie et de la montrer de toute son indécence qu'elle peut avoir, avec notamment évidemment la relation entre le père et la bonne qu'il congédie de manière horrible, évidemment, à un moment donné. Et il y a tout ce passage-là qui, alors encore un côté politique, mais qui, moi, me touche. Et je trouve que là, on a, il y a quelque chose d'autre. Il y a non seulement une rébellion par rapport à la famille, par rapport à ce qu'on fait. Quand elle dit « vous m'avez tout pris », je pense qu'au contraire, quelque part, ils l'ont tout donné, c'est-à-dire que c'est tellement abject, ou c'est tellement, en tout cas, voilà, tellement terrible tout ce qu'elle vit, que finalement, si elle peut s'en sortir, ce qui est compliqué évidemment, elle ne peut qu'aller vers quelque chose de grand, ou en tout cas de fort, et peut-être de ses écrits, justement, qu'elle a pu faire après.
Je me tourne maintenant vers le spécialiste de Marguerite Yourcenar dans cette émission.
Alors, pas tout à fait, j'ai lu les mémoires d'Adrien, mais je m'en suis tenu là, et je le regrette, et m'en excuse. Et m'engage à y remédier, évidemment, pendant les vacances d'été, pourquoi pas. Alors, y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans le film, sur la question biographique. J'aime assez que le film s'en tienne pour l'essentiel, non pas dans l'allusion, parce qu'il y a des renvois assez précis à la vie d'Yourcenar. C'est pour ça que je plaisantais sur le fait que c'était un petit peu Yourcenar, le prequel. Le côté, vous voyez un peu de quel adulte cette enfance va accoucher. Je pense à l'anagramme par lequel elle prend son indépendance et se donne son nom d'autrice, au portrait de l'empereur Adrien, effectivement. Mais j'aime assez que dans l'ensemble, le film se tienne plutôt du côté de la réinvention de cette enfance, et qu'il dise quelque chose de l'instabilité de la souvenir, du souvenir, et ça passe par la forme, évidemment, et qu'à cette instabilité, l'autrice et l'auteur ajoutent leur propre travail d'imagination. J'aime beaucoup la façon dont le film dialogue avec le post-impressionnisme, avec le travail de toute une génération de peintres, avec des formes qui sont contemporaines de l'enfance de Yourcenar. Ce qui est de l'aveu même de Jean-Baptiste Pelletier, était un principe directeur. Il parlait notamment de Berthe Morisot et de Vanessa Bell. C'est surtout vrai pour Vanessa Bell, qui est une peintre dont je connaissais un peu le travail, hein, mais pas plus que ça, donc je m'y suis un peu intéressé. Mais dans le travail des paysages, dans le travail de certains d'intérieurs, du contre-jour de la silhouette, hein, du dessin de la silhouette, si vous avez les moyens, vous allez aller voir directement à la Tate Modern, où il y a une importante collection d'œuvres de Vanessa Bell, qui, je le rappelle, était la sœur de Virginia Woolf. Et donc, sinon, vous allez voir sur Google. Hein,
voilà, un très beau catalogue, sinon, qui est sorti. Voilà. Ou
le catalogue,
superbe,
voilà. Voilà. Ou alors... Vous allez sur Google, voilà, puisque, comme je le disais il y a quelques instants, on est en 2024, on part du principe que vous avez Internet. Et vous pouvez notamment, il y a un certain nombre d'œuvres que j'ai découvertes ou redécouvertes, Frederick and Jesse Hetchel's Painting, et puis une autre œuvre qui est très belle qui s'appelle Still Life with the Plasterhead, donc on pourrait traduire par Nature morte avec une tête en plâtre, ce qui est un peu moins classieux, quoi. Voilà, vous verrez un petit peu dans quel bain formel a trempé notamment Jean-Baptiste Pelletier, et c'est assez beau, ça dialogue vraiment avec le film, et ça dit quelque chose de son projet aussi, voilà, parce que je trouve qu'il y a un travail de... Enfin, un régime de représentation qui, outre ses qualités formelles, est très cohérent. Et en me baladant sur le site de Jean-Baptiste Pelletier, puisque tu nous en avais donné les coordonnées, Francis, j'ai regretté, par exemple, de ne pas avoir vu son installation pour l'abbaye de Fontevraud, les Plantagenêts. J'ai vu quelques images fixes de ça, et je sais pas si vous l'avez vu, mais enfin, voilà, moi, ça m'a donné envie. J'aime le film, j'ai quelques réserves. Je trouve quelquefois un petit peu trop lisible, un petit peu trop explicite dans ses accents biographiques. Mais ça m'a donné énormément envie de découvrir le travail de Jean-Baptiste Pelletier. Voilà.
Un dernier mot.
Oui, vraiment très rapide. Hâte de voir en effet un film qui serait écrit par lui, réalisé par lui. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et Vanessa Bell, il faut vraiment la découvrir. Bloomsbury, elle fait partie du mouvement comme ça. Il y a quelques. Justement, avec Virginia Woolf, on a quelques photos des deux. On a des choses. C'est absolument un personnage, malheureusement, peu connu. Et vraiment à découvrir.
C'est important, oui.
Tout à fait.
Je suis d'accord.
Alors, je vous remercie tous les trois donc de nous avoir offert vos points de vue autour de ces trois courts-métrages. Mais je dis court-métrage juste pour rappeler qu'on a insisté sur le court-métrage cette année, puisque le long-métrage était très mis excessivement, peut-être, même moi je suis capable de le dire, en avant cette année à Annecy, et qu'il faut aussi revenir à cette forme fondatrice du cinéma d'animation. Donc je rappelle que pour Mon Noir, de Jean-Baptiste Pelletier et Eric Aklung, vous pouvez voir le film sur le site d'Arte, dans le cadre de l'émission Court Circuit, c'est d'ores et déjà disponible, et puis Thomas en parlait, vous pouvez aussi aller sur le site de Jean-Baptiste Pelletier où vous découvrirez son travail, ses films, et vous pourrez même voir le film que j'ai cité, son film en sortant de l'école, La fenêtre fermée.
Qui effectivement est très beau. Ouais.
Alors, eh bien je vais, Thomas, par un effet de translation, te redonner le micro pour le moment, je crois, que tu préfères dans cette émission.
Mais oui, puisque c'est le moment de liberté de cette émission, celui où, enfin, si toutefois vous le souhaitez, vous pouvez cesser de parler de cinéma, puisque rien ne vous y oblige, le saviez-vous ? Voilà, personne ne vous en tiendra rigueur, en tout cas certainement pas moi. Et ce moment, c'est celui des coups de cœur de la rédaction. Je me tourne donc vers vous. Y a-t-il un enthousiasme que vous souhaiteriez partager avec nos auditrices et auditeurs? Un livre, une musique, une exposition, une destination pour les vacances, une recette de cocktail avec ou sans alcool, hein, selon vos goûts et vos addictions, voilà. Et pourquoi pas un film, puisque vous aimez tant ça. Alexis.
Alors, ça tombe bien. Je me suis dit que j'allais parler de musique. Avec toi, alors je vais prendre un groupe qui est connu par une partie des gens, mais qui est un groupe qui est l'un de mes groupes préférés, que j'ai découvert il y a quelques années, et qui vient de sortir son 12e album. C'est Mono, groupe de rock progressif, comme on appelle, japonais.
Très bel album que j'ai écouté cette semaine.
Et ben donc parfait, donc voilà, tout à fait, merci, ça tombe bien. Donc ce 12e album de Mono, comme d'habitude, des longs morceaux de 8-9 minutes qui nous feront patienter jusqu'à l'album de Godspeed You, You Black Emperor en septembre. Non, l'album est magnifique. L'album est en plus enregistré, parce que visiblement il ne voulait pas dire qu'il était produit par lui, par Steve Albini, qui nous a quitté le mois dernier. Grand donc enregistreur, non pas producteur, et grand, enfin voilà.
Merci pour cet hommage.
Voilà, vraiment qui était important. Hein. Moi, je cite les plus évidents, Nirvana, Mogwai, PJ Harvey, Godspeed, mais il y en a tellement et tellement d'autres qu'il a donc enregistré. Il passe le 22 octobre au Trianon, et Mono, enfin voilà, moi je trouve que c'est dans le rock progressif, on a souvent des montées comme ça, c'est évidemment l'idée même, et là, en fait, on se mélange tout le temps, il y a des montées, puis on revient, puis on avance, et ce mélange entre le bien et le mal, pour faire de manière un peu simple, en tout cas, il y a vraiment cette force dans cet album, donc à écouter, ça s'appelle Oath, O-A-T-H.
Merci Alexis. Simon, je me tourne vers toi.
Moi, c'est également un album qui est sorti en avril 2024, mais que j'ai un peu découvert tardivement, et je vais expliquer pourquoi. Et moi, c'est l'album Brat de Charlie XCX.
Donc, alors, si on avait eu le temps, ma troisième ou quatrième pause musicale, c'était un extrait de Brat. Voilà. Donc, je plus sois dans les deux cas.
Je suis pas un fin connaisseur de l'hyperpop, un genre qu'elle représente depuis quelques années. Non, je peux pas dire que je
suis. Ah, t'as dansé sur Boys comme
voilà,
tout le monde.
Je suis un peu familier, mais voilà. Ce style un peu brut, un peu plus flashy. Mais je trouve que cet album est extrêmement intéressant sur ce qu'il dit un peu de la musique et de la pop aujourd'hui. Et surtout de cette manière que les artistes ont de recycler.